C'est contre les forces ennemies que, malgré l'ordre matériel rétabli, nous avions encore à défendre en 1840 la société et le gouvernement. Nous avons employé dans cette lutte que deux armes, les lois et la liberté, la répression judiciaire et légale quand les erreurs enfantaient des délits, la discussion libre, publique et continue de notre politique. Extrait des mémoires de François Guizot à propos de la monarchie de juillet.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
En juillet 1830, la Révolution avait provoqué la chute du roi Charles X et donc la fin de cette période que l'on appelle la Restauration. Les événements révolutionnaires parisiens avaient permis la montée sur le trône en tant que roi des Français de Louis-Philippe d'Orléans. Débutait ainsi la monarchie de juillet. Celle-ci avait connu des premières années difficiles parce que elle avait dû se battre contre trois oppositions. Les légitimistes, qui ne reconnaissaient pas le nouveau régime et qui restaient fidèles à la famille des Bourbons malgré les erreurs politiques commises par Charles X. Les bonapartistes, qui rêvaient d'une hypothétique restauration de l'Empire. Et les républicains, qui sont peut-être d'ailleurs les plus dangereux dans la mesure où ils n'hésitent pas, jusqu'en 1836, à attenter à la vie du roi Louis-Philippe, ce qui a amené le gouvernement à durcir la législation protégeant le chef de l'État. Mais dans la deuxième partie des années 1830, il y a indéniablement un apaisement et il semble que le régime et trouver finalement une espèce de vitesse de croisière. D'autant plus qu'à partir de 1840, un homme domine la vie politique, il s'agit de François Guizot. François Guizot est un homme capital dans l'histoire de la monarchie de juillet. Né en 1787, grand historien, il a été professeur d'histoire moderne à la Sorbonne, protestant, il avait été élu député en juin 1830 et avait participé à l'avènement de Louis-Philippe et à l'installation de la monarchie de juillet au pouvoir. Il avait occupé pendant quelques semaines le poste de ministre de l'Intérieur au tout début du régime, mais surtout il avait occupé le poste de ministre de l'Instruction publique entre 1832 et 1837, et il avait participé à la création des écoles normales qui devaient servir à former les futurs instituteurs. Et en 1840, après la chute d'un gouvernement dirigé par Adolphe Thiers, il avait pris la tête du ministère des Affaires étrangères. Officiellement, le président du Conseil du roi était le maréchal Soult, mais en vérité, l'homme fort du cabinet, c'était François Guizot. Et c'est lui qui allait pendant 8 ans, véritablement dominer la scène politique et diriger les affaires de la monarchie de juillet. Seulement, la situation des années 1840 allait progressivement se dégrader. Il est vrai que la monarchie de juillet avait longtemps bénéficié d'une situation économique plutôt favorable. Or, à partir de 1846, il y a des difficultés économiques font craindre non seulement une montée du chômage, mais même des fois des difficultés liées à une crise agricole au travers du ravitaillement. Donc 1846-47 sont des années économiquement difficiles. Mais il y a un autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est l'attente politique que une partie de la société française espère en 1840-48. Il s'agit de la réforme du mode de scrutin. Le système de la monarchie de juillet avait quelque peu élargi le suffrage censitaire basé sur les impôts et on était électeur à partir du moment où l'on payait au moins 200 francs d'impôts. Or, il y avait une demande sociale des classes moyennes qui espérait, alors si ce n'est le suffrage universel, mais au moins l'abaissement du cens, l'abaissement de cette barrière des 200 francs d'impôt jusqu'à 100 francs, qui aurait permis effectivement d'intégrer une partie de ces classes moyennes dans la sphère du politique, dans le corps électoral. Or, il est vrai que François Guizot, homme au demeurant cultivé et intelligent, ne saisissait pas tout à fait cette demande, ou plutôt, il y avait répondu par une formule qui est peut-être d'ailleurs apocryphe, les spécialistes de la période en discutent, c'est le fameux « enrichissez-vous ». C'est-à-dire qu'il disait, plutôt que de réformer la loi en abaissant le sens, il suffisait que par l'épargne et le travail, les Français puissent augmenter leurs revenus, atteindre les 200 francs d'imposition et accéder ainsi au droit de vote. Donc la question sur le suffrage était devenue une question relativement brûlante à la fin des années 1840. L'atmosphère politique de 1847-1848 était finalement inquiétante, même si le pouvoir ne s'en rendait pas tout à fait compte. En effet, à partir de juillet 1847, les opposants au régime organisaient ce qu'on appelle la campagne des banquets, à l'issue desquels les orateurs républicains, voire d'ailleurs aussi légitimistes, réclamaient des réformes, demander l'abaissement du cens, voire le suffrage universel, et accuser d'ailleurs Guizot, qui était devenu président du Conseil en septembre 1847, de mener une politique extérieure trop proche de Metternich, le chancelier autrichien, et d'être donc éminemment conservatrice. Mais Guizot avait confiance. Après tout, les élections législatives de 1846 lui avaient permis de maintenir une majorité favorable au gouvernement. Et puis, les succès militaires en Algérie, la reddition d'Abdelkader, mettait fin officiellement à la guerre d'Algérie, même si la pacification allait durer encore longtemps, lui permettait d'obtenir une claire majorité lorsqu'il posait la question de confiance à la Chambre. Or, la révolution est finalement arrivée par surprise. En effet, le 22 février 1848, un banquet à Paris avait été interdit et l'opposition s'était inclinée devant la décision du gouvernement. Mais des manifestants qui ignoraient cette interdiction s'étaient approchés du lieu prévu pour ce banquet. Des bousculades avaient eu lieu dans la zone des Champs-Élysées, de la Concorde, de la Madeleine, et la troupe avait été amenée à tirer, ce qui fait qu'il y avait eu plusieurs morts. À partir de là, le mercredi 23 février, des barricades commencent à s'élever dans Paris et on a le sentiment, peut-être, de revivre un scénario à l'image de ce qui s'était passé en 1830. Et le roi Louis-Philippe, d'ailleurs, décide de ne pas s'obstiner comme Charles X, qui avait maintenu son gouvernement Polignac contre vents et marées, et cède à la manifestation et renvoie Guizot. À la nuit du 23 février, Paris s'illumine, la nouvelle est connue, a priori tout est peut-être fini. Mais des accrochages à nouveau avec la troupe devant le ministère des Affaires étrangères provoquent 16 morts. À partir de là, l'émeute recommence véritablement et le 24 février, des associations secrètes républicaines entrent en scène, il y a des manifestations qui grossissent. Et le roi, âgé de 74 ans, quelque peu fatigué, appelle Adolphe Thiers aux Tuileries pour lui demander de former un gouvernement. Thiers propose au souverain, dans ces cas-là, d'évacuer Paris et de reprendre la capitale quartier par quartier, car après tout, il semblerait bien que ce ne soit qu'à Paris que les émeutes sont véritablement importantes. Or, disons-le, Louis-Philippe n'est pas très sanguinaire. Il ne souhaite pas continuer à régner après avoir réprimé sévèrement la capitale. Après tout, Thiers d'ailleurs le fera lui au contraire en 1871 contre la Commune. De plus, on apprend que certaines troupes passent aux émeutiers et le maréchal Bugeaud lui-même se montre moins ferme qu'à l'accoutumée. Aussi, le vieux roi décide d'abdiquer en faveur de son petit-fils, le comte de Paris, et donne la régence à sa mère, la duchesse d'Orléans. Mais à l'hôtel de ville, la foule acclame quelques heures plus tard le gouvernement provisoire de la République. Ainsi, le système de la monarchie de Juillet, qui était a priori stable et fort, est-il tombé sans trop se défendre sérieusement ? À l'occasion d'un incident, une minorité avait réussi à renverser ce régime et Paris donnait le ton politique au pays, comme déjà en 1830. À partir de ce moment-là, la Seconde République proclamée, eh bien, il fallait lui donner une stabilité, comme Charles X, 18 ans auparavant, Louis-Philippe partait pour l'exil, mais à la différence de Charles X, qui avait conduit une espèce de marche funèbre jusqu'à la Normandie et jusqu'aux côtes anglaises, Louis-Philippe partait de manière plus honteuse. Il s'embarqua presque clandestinement au Havre, il toucha l'Angleterre le 3 mars et il va ensuite y mourir. Mais son corps sera ramené en France, à la différence de celui de Charles X, et aujourd'hui, Louis-Philippe repose à la chapelle royale de Dreux, au milieu de la famille d'Orléans.